depuis les années 80 au moins. Au moins, deux slogans contradictoires ne cessent de retentir. Le retour du religieux et son opposé, le drame de l'analphabétisme religieux. Au réveil des fondamentalismes, à l'effervescence des sectes et des piétés New Age, aurait fait écho l'oubli des savoirs religieux, l'ignorance crasse de ce que certains considèrent comme les racines spirituelles de nos identités. Après le temps du désenchantement et de la déconfessionnalisation, voici que serait venu le temps de la remise en cause du profane. Après la prétendue victoire des Lumières et le règne des incertitudes, voici que serait revenu le temps des convictions, le temps de la désécularisation. En fait, c'est pas moi qui le dis ça, j'ai des notes en bas de page parce que je suis prof, mais je ne vais pas vous les donner. En fait, la sécularisation annoncée par les Lumières n'a jamais eu lieu. Malgré Marx, malgré Nietzsche et malgré Freud, le religieux, dans ses incessantes métamorphoses, ne nous a jamais lâchés. Naïfs auront été ceux qui crurent pouvoir s'en défaire, comme le fit remarquer naguère, haut et clair, Jacques Derrida, entre autres, et comme l'annonçait déjà le bon vieux Tocqueville de passage aux États-Unis en 1831. La religion, c'est un fait, est devenue à la fois omniprésente, voire obsessionnelle, dans ses aspects spectaculaires, intégrisme, guerre sainte, affirmation identitaire, tout en se révélant particulièrement évanescente, inconsistante, au niveau des connaissances. On a l'impression que certains de nos semblables foncent tête baissée dans ce qu'ils ignorent, tandis qu'au contraire, d'autres ont peur de quelque chose dont ils ne savent pas grand-chose. La désaffection des églises officielles, de ce point de vue, n'arrange pas les choses. À Genève, le besoin d'une sérieuse information sur les phénomènes religieux, phénomène qui était de facto écarté de l'école laïque, ce besoin se fait sentir de manière aiguë depuis déjà pas mal de temps. Mais les motivations, bien sûr, ont évolué en fonction des conjonctures locales, mais aussi des conjonctures globales. Au niveau local, la peur des dérives sectaires a été un facteur déterminant, ravivée qu'elle fut par la sinistre affaire du Temple solaire avec les massacres de Salvan et de Chéry en octobre 1994. Massacre effectué en Valais et à Fribourg, mais il convient de préciser que la secte, elle, fut créée à Genève. Le 10 octobre 1996, une proposition de motion concernant l'introduction de cours sur l'histoire des religions pour les élèves du canton est déposée au Grand Conseil par mesdames et messieurs Veska Holzhommer, Sylvia Leuenberger et Kaïm Nissim. Il s'agissait de pallier une ignorance de plus en plus crasse et générale. Les recommandations du groupe d'experts mandaté par le département de justice et police du canton de Genève pour un audit sur les dérives sectaires précisent, elles, en 1997, que, je cite, « les experts ont également constaté que les informations à la disposition du public sur les activités des groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique, ainsi que sur les éventuelles dérives sectaires, ne sont pas suffisantes. Cette lacune devrait être comblée de deux manières, et je continue de citer. D'une part, l'introduction de cours sur l'histoire des religions et la culture judéo-chrétienne à l'école apparaît comme une nécessité si l'on veut que les adolescents et les jeunes adultes puissent juger des produits proposés par les groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique, à l'aune des valeurs qui forment la base de notre société. Ces cours ne doivent en aucun cas remettre en cause le caractère laïque de l'école. Leur portée ne saurait ainsi dépasser le cadre des cours d'histoire ou de culture générale. » Fin de citation. Ces recommandations seront bientôt suivies de celles du groupe de travail exploratoire sur la culture judéo-chrétienne à l'école, mandaté par le DIP en 1994 et publié par le service de la recherche en éducation sous le titre « Culture religieuse et école laïque » en 1999. C'est le fameux rapport de Wallo-Hutmacher. En 2002, on assiste à l'émergence du groupe citoyen « Culture religieuse et humaniste à l'école laïque » dont les membres partagent la certitude qu'il est nécessaire d'agir pour que, précisément, une culture religieuse et humaniste trouve la place qui lui revient dans l'enseignement public genevois. Pourquoi culture religieuse et non pas enseignement sur les cultures religieuses? Je laisse la question ouverte, mais on va avoir une table ronde, donc on va pouvoir parler de ces choses. En 2003, une première grande conférence débat, comme celle d'aujourd'hui, Sylvie Arcevert l'a rappelé tout à l'heure, a lieu sous l'égide du DIP et elle est précisément intitulée « Culture religieuse et école laïque ». Ce fut l'occasion de faire le point avec Charles Baird, avec Wallo-Hutmacher et un invité de marque, Régis Debray, qui venait de rendre en France son rapport sur l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque, rapport établi à la demande de Jacques Lang, alors ministre de l'Éducation nationale. Je rappelle simplement, mais vous me direz que c'est peut-être pas par hasard, mais j'en sais rien. Cette demande avait été formulée dans une lettre de Jacques Lang à Régis Debray, datée du 3 décembre 2001, soit 3 mois après le 11 septembre. Du côté de Genève, la motion au Grand Conseil M-motion 1079 concernant l'introduction de cours d'histoire des religions, motion déposée, je le rappelle, en 1996, fait l'objet d'un rapport du Conseil d'État le 17 novembre 2004, rapport dont le Grand Conseil prend acte en septembre 2006. Si je voulais faire une plaisanterie un peu malvenue, je dirais « qui va piano, va ça, non ?» En 2008, le plan d'études roman, PER, est publié. Son préambule affirme que l'école, je cite, « l'école prend en compte et rend accessible la connaissance des fondements culturels et sociaux, y compris des cultures religieuses, afin de permettre à l'élève de comprendre sa propre origine et celle des autres. » Fin de citation. En 2009, ici même, dans cette salle, une deuxième grande conférence débat a lieu sur enseignement laïque et fait religieux. Où en est-on? La même année, un groupe de travail interne au DIP est constitué en vue de l'élaboration d'un nouvel enseignement sur l'étude des grands textes, dans la perspective du plan d'études roman, PER, qui devait entrer effectivement en fonction en 2011. Et il fallait faire cela en tenant compte des spécificités genevoises. Alors, par grand texte, il faut entendre, je pense, je le dis, texte représentatif de la manière dont des questions essentielles ont été posées ou sont posées dans différents contextes historiques et culturels. Il s'agit de textes jugés dignes de mémoire par les sociétés d'où ils sont issus. Voilà, c'est en ceci qu'ils sont grands. Ils sont grands par les questions qu'ils posent et par la reconnaissance dont ils sont l'objet dans les cultures d'où ils émanent. Les religions font donc officiellement leur retour, de manière non confessionnelle bien sûr, et à titre d'objet d'étude, dans l'école publique dès la rentrée 2011 du cycle d'orientation, à travers l'étude de ces grands textes, une tâche confiée aux enseignants d'histoire. Il ne s'agit pas d'un cours spécifique d'histoire des religions. Il s'agit, par rapport aux autres cantons et dans le respect du PER, d'un choix dicté par une spécificité cantonale. C'est donc à l'occasion d'une réflexion sur la manière dont différentes sociétés humaines, et d'abord bien sûr notre propre société, dans son histoire, la manière dont différentes sociétés humaines ont vécu autrefois ou vivent aujourd'hui leur relation au monde et aux autres, à l'occasion d'une réflexion fondamentale sur les coutumes et les règles du vivre ensemble et sur la diversité des civilisations que la religion apparaît dans ces grands textes. La religion intervient là comme une dimension culturelle et historique essentielle, un mode d'expression fondamental, mais un mode parmi d'autres. De la manière dont une culture, un mode d'expression, de la manière dont une culture réfléchit sur elle-même et analyse ses valeurs. Les grands textes constituent ainsi, dans le cadre de l'enseignement de l'histoire, une dimension que d'aucuns qualifieront de philosophique. Aujourd'hui, il était temps de refaire une grande conférence débat pour dresser le bilan de ce qui s'est fait au niveau de la formation de base, mais aussi à celui de la formation des maîtres, en matière d'enseignement sur ce qu'on appelle les faits religieux. Il semble que le contexte ne soit plus simplement celui d'une peur, des dérives ou d'un constat d'ignorance. Depuis le 11 septembre 2001 et le développement parfois manichéen d'une réflexion sur l'affrontement des civilisations, la religion est devenue de manière aiguë un motif essentiel dans la formulation des enjeux d'un monde de plus en plus globalisé et pourtant toujours aussi contrasté, voire divisé, au niveau des croyances et des pratiques rituelles. Parler des religions à l'école dans une perspective historique et non confessionnelle, dans le cadre d'une étude des grands textes, cela revêt certainement, qu'on le veuille ou non, un aspect éthique. Je cite ici quelqu'un que vous connaissez certainement. « Je n'ai pas dit instruction civique, mais bien morale laïque », explique récemment à ce propos, celui d'un enseignement de grands textes, lui aussi envisagé en France, le ministre français Vincent Peillon. Cela comporte, je le cite, une construction du citoyen avec certes une connaissance des règles de la société, du droit, du fonctionnement de la démocratie, mais aussi toutes les questions que l'on se pose, et c'est ça l'essentiel, sur le sens de l'existence humaine, sur le rapport à soi, aux autres, à ce qui fait une vie heureuse ou une vie bonne. Selon Vincent Peillon, si ces questions ne sont pas posées, réfléchies, enseignées à l'école, elles le sont ailleurs, par les marchands et par les intégristes de toutes sortes. C'est très vrai. Mais cette instruction laïque ne doit pas se réduire à une forme édulcorée de la morale chrétienne. Un réel changement de paradigme est nécessaire, et pas seulement d'étiquette, pour échapper à la reconduite naïve, voire inconsciente, du confessionnel. Il faut tenir compte vraiment des diversités internes à notre société, tout en ouvrant le débat sur le monde extérieur, avec ses différences. Pour cela, les grands textes introduits dans l'enseignement de l'histoire au cycle d'orientation de Genève représentent une véritable ouverture. Ce ne sont pas uniquement des textes européens, juifs ou chrétiens, ni exclusivement des textes que nous considérons, nous, comme religieux. Le besoin de compréhension et de connaissance est de plus en plus vif dans une perspective d'ouverture au monde et dans un contexte où ce qui se passe en Inde ou en Chine nous concerne directement ici même. Le débat d'aujourd'hui permettra de faire le point sur quelques-unes au moins de ces importantes questions. C'est pourquoi nous avons fait appel pour l'ouvrir à des spécialistes aptes à nous éclairer sur le rapport entre le local et le global, en l'occurrence l'Europe et le Canada. Mais n'oublions pas pour autant que des questions analogues se posent aussi en Chine et en Afrique. Je vous remercie de votre attention et je redonne immédiatement la parole à notre modératrice Sylvie Arcevert. Merci.